Je vous invite à encore quelques instants de prière. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Cette parole est même beaucoup plus que ça. Elle est pour nous source de vie, elle est joie, elle est porteuse d'espérance. Alors Seigneur, que cette parole, nous n'en perdions pas une miette, qu'elle pénètre au fond de nos cœurs, sans être déformée, sans être altérée. Oui Seigneur, que ton esprit soit maintenant sur cette étude de ta parole. Amen. Voilà, pour ce dimanche, nous avions plusieurs textes, comme d'habitude. J'ai retenu dans le Nouveau Testament le texte dans le Livre des Actes, qu'on va lire tout de suite. Donc, Livre des Actes, Actes des Apôtres, au chapitre 6, les versets 1 à 7. Actes 6, 1 à 7. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. J'apporte tout de suite une petite précision. Les hellénistes, c'était les juifs qui étaient dispersés dans le monde connu de l'époque, hein, donc qui étaient essentiellement grecs, du moins colonisés par la culture grecque. Et puis les Hébreux, c'est-à-dire les juifs qui étaient restés en territoire de Palestine. Alors, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons, oui, dans la prière et dans le service de la parole. Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et puis nous lirons ensuite dans l'épître, la première épître de Pierre. C'est au chapitre 2, donc 1 Pierre 2, à partir du verset 4 et on lira jusqu'au verset 10. Voilà. 1 Pierre 2, 4 à 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture... Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors, je reviens sur le premier texte que nous avons lu dans le livre des Actes. De quoi s'agit-il dans ce texte? J'avoue très humblement que je serais bien incapable de vous donner beaucoup plus de détails sur la nature même du problème qui apparaît On est au lendemain, disons, de lendemain ou surlendemain de la Pentecôte, hein, c'est-à-dire que l'Église commence à s'organiser. Alors, problème, il y a une histoire de veuve qui était négligée. Alors, on comprend qu'il y a une organisation assez complexe parce que les disciples, les adeptes de la nouvelle religion chrétienne commencent à devenir très nombreux. Et les 12, c'est-à-dire les 12 disciples, sont à la fois au four et au moulin, hein, ils n'arrivent plus à servir correctement sur le plan matériel, parce qu'ils sont également appelés à servir la parole. Donc, à un moment donné, eh bien, ils prennent une décision de dire, attendez, nous, il faut qu'on se concentre sur la parole, on ne peut pas tout faire. Donc, voilà, trouver ces 7 hommes qui feront les services à notre place. Il est très intéressant de remarquer que, sauf erreur, il s'agit bien de services très matériels, très terre-à-terre, on va dire, hein, ils prennent quand même le soin de choisir des hommes connus pour... de qui l'on rend un bon témoignage, nous dit le texte. Bon, remplis de l'Esprit, et de l'Esprit Saint et de sagesse. Je vous rappelle, pour des tâches très matérielles. Hein. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, il les présente aux apôtres qui prient pour eux et qui leur imposent les mains. Alors, prenons-en de la graine. Hein. On a toutes sortes de services dans notre Église. Dès qu'il s'agit de prêcher la parole, alors là, oui, il n'y a pas de problème, on impose les mains, on fait un culte de bénédiction, etc. Mais dites donc, pourquoi pas, au vu de ce texte, pourquoi pas pour toutes les petites tâches, les grandes tâches matérielles qui se présentent dans l'Église et qui sont nécessaires à la vie de l'Église. Donc ça, c'est une petite parenthèse. J'ai trouvé très surprenant, vraiment, qu'il y ait tout cet enthousiasme, cette consécration vraiment profonde autour des tâches matérielles. Alors, on comprend, grosso modo, dans ce texte, que finalement, que ce soit ce problème ou un autre, le livre des Actes essaye de nous expliquer là que l'Église est en train de se construire et elle a besoin de s'organiser, de gérer beaucoup de choses. Il y a toutes sortes de choses qui se mettent en place. Voilà, c'est ça le sens de ce texte. Et pourquoi donc, je me suis posé cette question, pourquoi s'organiser avec autant de précision, avec autant de soucis? Est-ce que ce serait, par exemple, en vue de durer, pour une Église qui est partie pour des siècles et des siècles, ce qui est le cas, hein, puisque 2000 ans après, elle est toujours là, l'Église. Alors, en fait, pas du tout, parce que là, il faut ne pas perdre de vue l'ensemble de l'Écriture, et dans ce livre des Actes, on se rend compte, ou même dans les épîtres qui suivent, on se rend compte que les premiers chrétiens vivaient véritablement dans l'imminence du retour de Christ. C'était peut-être pas une question de jours, mais peut-être une question de semaines, de mois, allez, quelques années. Ils vivaient dans cet esprit. Jésus leur avait dit « Je viens bientôt ». Ils l'avaient pris au pied de la lettre, n'est-ce pas? Donc, je veux dire par là que toute cette organisation, cette mise en place, n'est pas destinée à établir une Église pour les siècles des siècles. On est d'accord. Au passage, il faut quand même remarquer que dans les siècles qui suivent, oui, l'Église s'est installée pour durer. Et ça a été, je vous le dis tout de suite, ça a été sa grande erreur. Vous voyez, quand on a construit des cathédrales, c'est magnifique les cathédrales, mais ils les ont construites, c'était pas pour quelques dizaines d'années, hein. C'était, regardez, 4, 5, 600 ans après, on a toujours ces édifices quasi intacts, hein, sauf quand ils ont été bombardés pendant la guerre. Je parle d'erreur parce que je me dis que dans le fond, entre les disciples qui vivaient, je vous dis, dans cette imminence du retour de Christ, et puis une Église plus tard qui s'est installée dans le pouvoir politique, dans la possession de richesses et dans le temps, eh bien ceux qui avaient raison, c'était les disciples. C'est eux qui sont dans le vrai, les disciples, les apôtres, les premiers chrétiens. Pourquoi sont dans le vrai? Parce que je comprends quand je lis l'évangile, je comprends que on ne peut vivre cet évangile que dans cet esprit-là, que Jésus revienne demain. Demain, c'est pas plus tard, c'est demain, lundi. Il vient demain. Si je perds de vue cette conception du retour de Jésus qui est vraiment imminent, je perds quelque chose de la vérité de l'évangile. C'est déjà une première conclusion à laquelle je voulais partager avec vous. C'est que le Maranatha, hein, viens Seigneur Jésus, ce n'est pas seulement un cri, un souhait, hein, ah, plutôt tu viendras Seigneur, mieux ça vaudra. Non, c'est véritablement un mode de vie dans l'évangile quand on est chrétien. Et réfléchissons bien chacun en nous-mêmes. Si on se disait, je suis sûr que Christ revient la semaine prochaine, nous aurions une conception tout à fait différente de la vie en Christ. Nous aurions une vie différente. Voilà une première piste. On a lu ensuite ce texte dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, où bien précisément il est question de construction. Vous rappelez la pierre angulaire. Hein ? Donc on va reprendre quelques passages. Je venais à l'instant de vous parler de la construction de l'Église. Hein, l'Église qui s'organise, qui se structure pour construire l'Église. Bon. Effectivement, il y a quand même eu ce besoin de construction et d'organisation parce que, nous dit le texte, le précédent, hein, celui qu'on a lu en premier, l'Église se multipliait, croissait de façon énorme. Il fallait gérer tout ça. Hein, donc c'était vraiment une organisation nécessaire. Alors, Pierre utilise une sorte de parabole très intéressante pour illustrer précisément la construction de cette Église. Il utilise des termes d'architecture, j'allais dire. Alors, je suis vraiment ignare en matière d'architecture. Hein. Si Luc Perret était parmi nous, il nous expliquerait ça beaucoup mieux. Mais je crois pouvoir deviner que la pierre angulaire, hein, la pierre d'angle, c'était certainement la première pierre composée, qui devait être certainement une pierre bien taillée, parfaite, et posée de façon parfaite. Pourquoi ? Parce qu'après, toutes les pierres de l'édifice allaient être alignées par rapport à ce démarrage. Vous comprenez ? Donc c'est vraiment un point de départ qui doit être très très soigné, qui doit être parfait, parce que si elle est de guingois, ben après tout l'édifice sera de guingois. Si elle penche un peu, ben le mur il va pencher, hein, d'accord ? Donc voilà comment je comprends cette notion de pierre angulaire. Alors, j'ignore si maintenant les techniques d'architecture ont évolué, certainement d'autres façons de faire, mais c'était certainement la technique architecturale de l'époque dans ce pays. Alors, c'est vrai que Dieu a annoncé dans les prophéties, voici, je pose en Sion, alors ça doit être dans Ésaïe, je crois, Ésaïe 28, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. Alors, Pierre, justement, il s'appelle Pierre, lui, tiens, ça tombe bien. Pierre rebondit là-dessus en disant, eh bien, pour construire l'Église, il faut déjà bien partir sur cette pierre angulaire. Si vous partez à côté, ça ne marche pas. L'édifice va monter de façon anarchique, il ne sera pas bien construit. Hein. Et d'ailleurs, en réfléchissant bien, c'est vrai, on imagine cette pierre angulaire, alors elle est carrée ou rectangulaire, enfin en tout cas angle droit, et à partir de cette pierre, donc si on regarde bien, chaque pierre de l'édifice va avoir sa longueur, sa hauteur, sa largeur, parallèle, qu'elle soit près ou qu'elle soit loin, hein, ou qu'elle soit dessus ou à côté, parallèle à cette pierre, c'est-à-dire alignée, c'est-à-dire dans le sens de cette pierre. Et je trouve que cette image, oui, est tout à fait intéressante parce que, eh bien voilà, comment construire l'Église ? Voilà la réponse. Voilà la réponse. Construisons notre Église, alors pas le bâtiment, hein, on est d'accord, hein, l'Église, la communauté, hein, des frères et des sœurs en Christ, construisons cette communauté en nous alignant tous, nous sommes chacun une des pierres de l'édifice, hein, en nous alignant sur la pierre qui a été posée, la pierre parfaite, la pierre d'angle qui est Jésus-Christ. Vous voyez, c'est intéressant. finalement, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, pour participer à la vie de l'Église, pour mon édification personnelle, pour... On est toujours dans un processus de réflexion orienté vers la construction. Comment je me construis? Comment je construis ma vie en Christ? Et bien voilà, voilà un modus vivendi, voilà une bonne recette. Alignons-nous sur chacun d'entre nous sur cette pierre angulaire, et tout l'édifice sera parfaitement aligné et sera un magnifique édifice pour la gloire du Seigneur. Alors c'est vrai que c'est une question qui nous taraude, parce que vous voyez, souvent c'est ce thème qui revient, est-ce que Dieu a un plan pour moi? Est-ce que Dieu a un plan pour ma vie? Certainement, pour les uns les autres, Dieu a prévu, on voit ça dans la Bible, on voit ça dans l'histoire récente, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont été appelés par Dieu. Mais moi j'aime bien aussi quand on me dit, Dieu n'a pas forcément un plan très défini. Dieu nous a donné la vie, il nous a donné la liberté, dans l'amour, la paix, la liberté. Donc je serais un petit peu plus séduit par ce que Dieu dit par exemple à Josué, « Va, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » C'est-à-dire, tu as une intelligence, tu as la liberté, eh bien exerce-la. Je t'ai donné tout ce qu'il fallait pour le mode d'emploi, comment vivre, hein, voilà. À toi de voir, sois libre, exerce cette liberté. Et puis moi, derrière, avec mon esprit, je serai là. Donc, vous voyez que c'est quand même édifier l'Église au travers de notre édification personnelle, les uns les autres. C'est pas quelque chose de vraiment très compliqué, mais il faut quand même être vigilant, rester toujours aligné sur cette pierre angulaire, être toujours les regards fixés sur Jésus-Christ, comme disait Paul, hein, ou parfois même les pensées. L'apôtre Paul disait aussi « Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ ». Et puis, il n'y a pas de raison que notre vie ne soit pas bien alignée sur cette pierre angulaire, et que par conséquent, participant à la vie de l'Église, nous ne fassions pas, à nous tous, un édifice sain et agréable à Dieu pour sa gloire. Alors, y avait-il quelque chose à rajouter? Voilà. On pouvait aussi s'attarder un peu sur la fin du texte que nous avons lu. Ceux qui ne s'alignent pas sur cette pierre angulaire, vous avez remarqué, cette pierre devient pour eux une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. C'est-à-dire que, vous voyez, Jésus a bien dit qui n'est pas avec moi est contre moi. Hein. Donc, intéressant aussi de voir que Jésus-Christ, c'est pas une option, hein, c'est pas, comment dire, un petit plus de la part de Dieu pour notre vie, c'est vraiment la base. Et si on rate cette base, non seulement on s'édifie mal, mais carrément c'est la catastrophe. Hein. Voilà. Alors, je suis allé un petit peu plus loin que Pierre, en me disant, il aurait pu pousser un peu l'image plus loin, parce que les pierres qui sont donc montées à partir de cette pierre angulaire pour monter l'édifice, il faut aussi du ciment. Ah oui, hein, il faut du ciment. Sinon, bon, pierre sèche, c'est bien, mais c'est moins durable. Et là, le ciment, c'est le Saint-Esprit. Alors, je ne veux pas déflorer le sujet, parce que dimanche prochain, c'est Pentecôte, et certainement, vous allez entendre parler du Saint-Esprit. Mais j'avais commencé un petit peu à réfléchir, puisque j'étais théoriquement de culte dimanche prochain, et je me suis dit, c'est vrai que le Saint-Esprit, lui non plus, c'est pas une option. Lui non plus, c'est pas un petit bonus comme ça dans la vie d'un chrétien. Il y aurait les chrétiens de base, et puis quelques chrétiens qui auraient le Saint-Esprit, voilà, une petite décoration supplémentaire, mais plus, quoi. Hein, voilà. Pas du tout. Le Saint-Esprit, justement parce qu'il est le ciment qui nous unit à la pierre angulaire. Hein, vous voyez, une pierre qui est par là-bas, dans ce bâtiment, et bien, quelque part, au travers des pierres et du ciment, elle est reliée à la pierre angulaire. Et puis, le Saint-Esprit nous lie entre nous également. Et je me suis dit, une preuve que le Saint-Esprit est vraiment, comme il est dit dans l'Évangile, l'esprit de vérité. C'est-à-dire que lorsqu'on est imprégné de cet esprit, on a la conviction qu'on est dans la vérité de Dieu, c'est que je me suis dit, de toutes ces fêtes carillonnées là, que nous avons tout au long de l'année, ça commence avec Noël, c'est logique, ça suit la chronologie de la vie du Christ, hein. Noël, alors on fait une petite allusion à l'épiphanie, là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le baptême de Christ, hein, un dimanche, où, voilà. Puis alors après, il y a les rameaux, il y a Pâques, évidemment, donc la semaine sainte, vendredi saint, la résurrection, l'ascension, Pentecôte. Et puis, l'ascension et puis Pentecôte. On termine avec Pentecôte, hein, on est d'accord. Et Pentecôte, c'est le jour du Saint-Esprit. Hein. Mais si vous regardez bien tous ces temps forts de notre vie d'Église, Pentecôte a un statut un peu particulier. D'abord, c'est le seul événement qui est en dehors de la vie terrestre de Jésus, puisqu'il est déjà parti. Hein. D'accord, il a laissé, bien sûr, il est toujours présent dans le cœur des disciples, etc., mais il est parti. Mais qu'est-ce qui singularise Pentecôte et donc le Saint-Esprit par rapport à tous ces événements? C'est que c'est le seul qui a été reçu positivement par les hommes et qui produit quelque chose de positif. Regardez bien, on commence au début, Noël. C'est formidable, c'est merveilleux, Noël, c'est le petit bébé, la crèche, etc. Bon, vous avez quelques bergers, des mages, on ne sait pas trop qui sont venus, bon, mais retentissement zéro. Résultat, massacre des innocents, voilà ce que ça produit en gros, hein, Noël, hein, massacre des innocents à Bethléem. Des dizaines, peut-être des centaines d'enfants ont été zigouillés. Quoi. Ça commence mal. Donc, premier événement de la vie du Christ, incompris, négatif, raté. Humainement, hein, attention, hein, raté. Ainsi de suite, on va un petit peu plus loin. On prend par exemple même le baptême de Jésus. Le baptême, est-ce que tous ces gens qui étaient là, est-ce qu'ils ont compris vraiment? Quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », est-ce qu'ils ont vraiment compris? J'en doute, pourquoi? Parce que le texte nous dit, sur le coup, plusieurs ont laissé Jean-Baptiste et ont adhéré, se sont mis à suivre Jésus. Mais quelques pages plus loin, dans l'Évangile, on voit que beaucoup le quittèrent. Au moment où Jésus commence vraiment un discours qualifié de dur, « Il faut manger ma chair, boire mon sang », oula. Et ils s'en vont. Donc, vous voyez, là aussi, raté. Incompris, du moins. Bon. La semaine sainte, donc, le vendredi. Alors là, est-ce que je dois vous faire un dessin? Personne n'a compris ce qui se passait. C'était la catastrophe. Jésus crucifié sur la croix. C'est fini, c'est foutu, on y a cru, c'est cuit, c'est mort. Personne n'a rien compris à la croix. À la résurrection, croyez-vous que ce soit mieux? Regardez le tableau. Les femmes s'enfuient affolées. Bon. Les apôtres refusent de croire ce que ont vu les femmes. Enfin, vous voyez, les disciples d'Emmaüs, ils étaient en train de... Bon. Alors, tout doucement, évidemment, les morceaux ont commencé à se recoller, mais même la résurrection, c'est un épisode, on se dit, mais c'est un loupé intégral. Bon, etc. On arrive à la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend sur les disciples, et regardez le miracle, ils descendent dans la rue, ils prêchent sur les toits alors qu'ils avaient la trouille avant, hein, sans aucun complexe. Ce jour-là, 3000 convertis, enfin, etc. Une réussite totale. Donc là, je me dis, c'est que certainement le Saint-Esprit, c'est vraiment la clé de tout. Donc c'est simplement une petite ouverture, hein, sur dimanche prochain, venez nombreux, c'est Pentecôte. Mais pour dire que le Saint-Esprit, je crois fermement que beaucoup de chrétiens se disent le Saint-Esprit c'est formidable, c'est beau, mais c'est pas pour moi. Moi je ne suis pas à la hauteur. Voilà. Hein. Non, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit s'il ne vient pas éclairer, parce que le Saint-Esprit il a cette qualité, hein, il est pédagogue, il est révélateur de Jésus-Christ. S'il ne vient pas éclairer vos vies. Je pense que nous ne pouvons pas comprendre réellement qui est Jésus, qu'est-ce qu'il vient nous apporter, quel est le plan de Dieu pour nos vies. Donc voilà, c'est simplement une petite mise en bouche pour dimanche prochain. Venez vraiment chercher la révélation du Saint-Esprit dimanche prochain, pour Pentecôte. Et je compte sur le Saint-Esprit pour vous expliquer les Écritures, c'est son rôle. Pour vous consoler si vous avez des difficultés, puisqu'il appelait le consolateur, pour etc., etc. Vous voyez toutes les qualités qui sont décrites dans la Bible, les qualités du Saint-Esprit. Venez les chercher et votre vie en sera certainement transformée. Amen.